frères et sœurs, vous qui êtes présents ici en ce lieu, à vous tous qui nous suivez via un écran, soyez les bienvenus dans ce temps de rencontre avec le Seigneur. À chacun, il est bon de rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous venons tous d'horizons différents, avec une histoire particulière, un cadre de vie différent, un ressenti différent. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons avoir cet essentiel en commun. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni aucune autre différence fondamentale, disait l'apôtre Paul. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Nous voici donc rassemblés en ton nom, Seigneur. Et c'est notre premier cantique en ce jour. Arc-en-ciel 201. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia. Crions notre joie au Dieu vivant. Alléluia. Louons-le par notre chant. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus Sauveur. Technique nous lâche, mais il y a tellement de prodiges grâce à la technique, et je pense que ceux qui nous suivent pardonneront ce petit souci, car grâce quand même aux moyens techniques, plusieurs qui ne sont pas là parmi nous peuvent vivre ce culte avec nous, donc on espère qu'au niveau de la projection pour ceux qui sont ici, tout va s'arranger, on n'en doute pas. Mais en ce début de culte, nous voulons prier. Père Céleste, au début de cette rencontre, nous voulons remettre tout entre tes mains. Toi, tu nous connais parfaitement. Tu sais ce que nous vivons, tu sais ce que nous ressentons. Viens par ton Esprit Saint nous guider, nous réconforter, nous encourager. Seigneur, toi qui es présent parmi nous, tu es celui qui nous rassemble, tu es celui qui nous unit. Et en ce jour, nous te prions que ton amour vienne nous habiter, que ta présence nous éclaire et que ta parole nous fortifie. Amen. La louange, prendre un temps pour adorer Dieu, c'est un moyen d'entrer dans la présence enrichissante de Dieu. Louer Dieu, c'est le reconnaître comme maître et seigneur et le laisser se manifester au creux de nos vies. Et nous voulons commencer ce temps de louange, d'adoration, par la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 111. Louez le Seigneur. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits, comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres, pour toujours, à jamais, inébranlables, faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Et nous voulons prendre un temps pour chanter. Deux cantiques, je veux n'être qu'à toi, suivi du cantique Emmanuel. On peut se lever pour chanter ce cantique qui ne va vous être guidé par le son audio.
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Thank you.
marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie.
Tu es notre seule victoire, Seigneur. Toi, tu es notre victoire. Toi, tu es notre victoire dans cette vie. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Et lorsque nous regardons... Vous pouvez prendre place, excusez-moi. Lorsque nous regardons notre vie honnêtement, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à l'appel que le Seigneur nous adresse en lisant sa parole. Père Céleste, tu sais combien notre foi est timide. Tu sais combien notre espérance est peureuse. Combien notre amour est souvent compté ou notre prière paresseuse. Mais Père, lorsque nous ouvrons la Bible, nous y voyons un Dieu qui accueille, qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors, aujourd'hui encore, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu multiplies notre amour, que tu illumines notre prière. À Dieu seul soit la gloire. Amen. L'annonce du pardon en ce jour est extraite du livre du prophète Ésaïe, chapitre 1, au verset 18. On voit des frères et sœurs qui prennent leur Bible spontanément, donc on va leur laisser quelques secondes pour qu'ils trouvent le premier chapitre d'Ésaïe, au verset 18. « Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. » Quand il serait rouge comme le cramoisi, il deviendrait comme la laine. Voilà ce pardon que le Seigneur nous offre. Nous pouvons toujours venir vers lui. Et c'est aussi le sens de ce beau cantique. Tel que je suis, moi-même, avec mes difficultés, avec mes erreurs, moi je peux venir vers le Seigneur. Chantons ça de tout notre cœur.
Thank you.
d'ouvrir la parole pour en méditer un passage, nous voulons prier. Seigneur, toi, tu es le maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais toi, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs, dispose nos oreilles, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Amen. Je vous propose une seule lecture ce matin, passage célèbre que nous lirons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13. À cette nouvelle, et la nouvelle en question est la mort assez tragique de Jean-Baptiste, Jean-le-Baptiste, Jean-le-Baptiseur, devrions-nous dire. Donc à cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voici pour la parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est fort dommage que le nombre de nos contacts soit actuellement limité, parce que j'avais comme intention de prévoir un grand repas en invitant plein de monde, tout le monde en fait, tout le monde était le bienvenu, tout le monde qui voulait pouvait venir. Et c'était pas compliqué, j'avais même déjà préparé ma liste de courses en m'inspirant d'un texte célèbre. Je me dis, pour nourrir tout le monde, bon, ça tient sur un petit morceau de papier. Il faut juste 7 éléments, c'est pas beaucoup. Petit clin d'œil, évidemment, frères et sœurs, à cet épisode très connu, ou supposé connu, c'est même parfois le problème, de cette sorte de pique-nique géant improvisé sur les bords du lac de Tibériade. 5 petits pains, 2 poissons, qui auraient en principe à peine dû suffire pour nourrir 2, 3, voire peut-être 4 personnes en étant un peu chiche sur les rations, mais qui, en fait, ont permis de nourrir une foule énorme. Au point même qu'il restait encore une grande quantité de nourriture au final. Voilà l'histoire en gros résumé, en diagonale, ou comment beaucoup s'en souviennent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de ce récit, une petite parenthèse sur cette notion de foule. Le texte dit même, et on sent que c'est un peu comme une sorte de formule, qu'ils étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. D'accord, ça fait facilement le double alors, hein, si on compte bien. Mais peu importe le nombre, en fait, retenons surtout qu'il s'agissait d'une foule très nombreuse. Je me souviens, petit détail, que le pasteur Émile Carpe avait un jour eu une belle réflexion, une belle réponse concernant certains grands nombres de la Bible. Le nombre 1000 est-il symbolique, dit-il, je ne sais pas, mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose s'ils étaient seulement 998 ? Fin de la parenthèse, et reprenons ce récit un peu plus en détail. Le contexte est donc le suivant. Jésus a appris la mort de Jean le Baptiste et désire se mettre quelque peu à l'écart, dans un lieu désert, nous dit le texte. Sans doute était-ce pour penser à Jean, mais aussi pour assimiler son propre ministère à la suite du Baptiste, un temps de réflexion, un temps de calme. Seulement voilà, la renommée de Jésus est déjà grande à ce moment-là. Et quand les gens ont vu qu'il se dirigeait vers tel endroit, une foule de curieux s'est formée rapidement, même sans appel via les réseaux sociaux, comme quoi il y a toujours moyen de se regrouper. Mais quelle était la motivation de tous ces gens-là ? Peut-être voir enfin ce fameux Jésus dont on a entendu parler. Peut-être l'écouter. Qui sait, essayer de l'approcher, recevoir de lui un geste de bénédiction. Ça ne peut certainement pas faire de mal. Voilà cette foule qui se regroupe. Et lorsque Jésus voit cette foule immense, il a été ému. Littéralement, dans le texte, ému jusqu'aux entrailles, au plus profond de lui-même. Jésus a eu compassion de ces gens. Et l'évangéliste Matthieu nous dit que Jésus a fait certaines guérisons, sans plus de détails, au sein de cette foule. Dans le passage parallèle, Marc nous dit pour sa part que Jésus a également enseigné à cette occasion. Je pense que, de manière générale, les deux aspects, guérison, enseignement, étaient souvent liés dans le ministère de Jésus. Et bref, voilà que le temps passe et que le soir approche. Le petit groupe des disciples vient alors trouver le maître pour lui signifier, chose étrange, que le lieu est désert. Ben en fait, oui, c'est un peu ce que recherchait Jésus au départ. En lieu désert. Et donc, disent-ils, il n'y a pas d'endroit où les gens pourraient se procurer de la nourriture. Et il serait certainement préférable de les renvoyer chez eux. On ne sait pas si cette demande des disciples était le reflet de ce qu'ils avaient entendu ça et là dans la foule, ou bien si c'était un réflexe, on va dire, humain, une manière poli de dire qu'en fait il commençait un peu à se lasser, peut-être un peu des deux, on ne sait pas. Et chacun peut l'interpréter à sa guise. Quoi qu'il en soit, la réponse que leur donne Jésus va être une nouvelle fois bien déroutante, et Jésus est un spécialiste des réponses déroutantes. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ici, sur place. Et c'est à partir de là que les choses vont prendre une autre tournure, une ampleur considérable même. Car ce sont bien les disciples du maître qui vont nourrir la foule, même si au début ils sont réticents, voire incrédules. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et bien sûr, frères et sœurs, c'est Jésus qui est à la base de tout. C'est lui qui agit, c'est lui qui transforme. Les pains, c'est lui qui transforme nos vies. Même quand ce que nous avons semble quantité négligeable. Mais à côté de cela, on peut voir aussi chaque intervenant du récit qu'il a un rôle à jouer. Il est appelé à se mettre en action. Et que voyons-nous? Ou comment peut-on visualiser cette scène? Voilà les disciples qui passent entre l'héros. Une personne se sert et à chaque fois l'incroyable se produit, se reproduit. La personne à côté peut encore se servir. Et ainsi de suite. Et chacun est nourri. Et quand on fait le compte, au final, il y a surabondance. Frères et sœurs, on ne peut pas passer sous silence le parallélisme évident entre le petit rôle, entre guillemets, qui est assigné aux disciples, celui de distribuer le pain, et notre rôle à chacun aujourd'hui. Et alors, il faut pouvoir se poser la question. Sommes-nous encore des passeurs de pain ? Sommes-nous encore des intermédiaires entre Jésus et la foule, entre Jésus et le monde autour de nous? Ou bien nous arrive-t-il trop facilement de trouver des excuses à notre manque d'action, à notre manque de témoignage? Oh, que ces gens aillent se nourrir par eux-mêmes. Et puis, il se fait déjà tard. Il se fait tard dans nos vies, il se fait tard dans notre monde. Et puis, Seigneur, sérieusement, nous avons personnellement si peu à offrir. C'est le récit qui nous est donné ici. Et voyez-vous, frères et sœurs, encore aujourd'hui, le Seigneur peut transformer ce qui, a priori, pouvait sembler presque rien en quelque chose de grand, d'énorme. Il peut encore nous employer à cette tâche, chacun d'entre nous, selon nos capacités. Et le récit qui nous est transmis est à ce point important qu'il est l'un des rares, pour ne pas dire le seul récit de miracle, ou on devrait dire de signe, accompli par Jésus, qui se trouve dans les quatre évangiles. Chaque auteur d'évangile, individuellement, a donc considéré que ce récit était à ce point essentiel, qu'il était même emblématique de la puissance de la seigneurie de Jésus-Christ. Et pourtant, chose étrange, il n'est pas question ici de guérison spectaculaire, pas d'anciens aveugles qui voient ou d'ex-paralysés qui marchent, pas non plus une tempête apaisée. Non, c'est juste, entre guillemets, une distribution de repas. Certes, à une très grande échelle, certes, à partir de presque rien, mais quand même. Petite précision quand même, il ne s'agit pas de nourrir des affamés ou des pauvres, car on nous dit que ces gens auraient eu la possibilité d'acheter de la nourriture ailleurs. C'est une intervention de Dieu dans le quotidien. Une surabondance possible même dans notre quotidien. Et c'est là aussi certainement une des leçons de ce passage. Cet épisode qu'on a coutume d'appeler la multiplication des pains, ou première multiplication des pains, c'est d'ailleurs souvent le titre qu'a ce passage dans nos Bibles, titre qu'il faut-il le rappeler, ne font pas partie du texte originel, ce sont des repères visuels pour nous aider dans la lecture. Mais si l'on regarde plus attentivement le texte lui-même, au lieu de multiplication, on devrait plutôt parler de division des pains, en fait. Car c'est bien ce que fait Jésus avec les quelques aliments mis à sa disposition. Il les partage. Et d'ailleurs, si on n'avait pas lu ce texte en question avant, ou plus tard, ou dans un autre contexte, on pourrait faire un test auprès d'un public chrétien, un public de spécialistes, de connaisseurs de la Bible, et demander de quel passage ou de quel récit est extraite La phrase suivante. Jésus leva les yeux vers le ciel, il prononça la bénédiction, puis il rompit le pain et le donna aux disciples. Oui, je l'ai mis volontairement au singulier, il faut compliquer un petit peu la tâche du quiz. Je pense qu'une grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, répondrait que c'est là un passage célèbre de la scène. Du dernier repas de Jésus avec ses disciples avant la crucifixion. Et les plus forts d'entre vous auraient même été capables de citer spontanément la référence en question. Par exemple, l'évangile de Matthieu, Matthieu 26:26. Eh bien non, ou pas uniquement en tout cas. C'est 12 chapitres plus tôt que cela se passe. Et ces pains rompus sont donc bien un extrait de la fameuse multiplication des pains. Le même vocabulaire, la même formulation qui est employée dans les deux récits, ce n'est évidemment pas une curieuse coïncidence ou un hasard. C'est une volonté délibérée de l'auteur de l'Évangile. C'est un signal pour les lecteurs que nous sommes. Associer cet épisode à celui de la scène, à cet épisode essentiel, c'est dire qu'il y a ici davantage que la « gentille » entre guillemets distribution de nourriture, même pour une foule immense. C'est nous renvoyer, nous-mêmes, à Jésus directement. Jésus, le pain de vie, qui se donne pour la multitude. Et frères et sœurs, si l'on reprend la lecture de ce récit, je pense que l'élément essentiel, la pointe, se trouve au verset 20, qui nous dit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. » Tous mangèrent et ils furent rassasiés. C'est-à-dire qu'a priori, personne dans cette foule, dans cette assemblée, devrait-on dire, ne s'est dit « Oh non, non, merci, ça va, je n'en prendrai pas, je passe mon tour, donnez ça au suivant. Ce n'est pas grave si je ne mange pas. » Non, le texte nous dit « Tous mangèrent et ils furent rassasiés. » Être rassasié, vous pouvez regarder au dictionnaire, c'est avoir sa faim complètement apaisée. C'est manger en bonne quantité. Et je faisais il y a quelques instants le parallèle littéraire avec la scène. Ôtez de votre esprit la célébration de la Sainte Cène que nous pratiquons habituellement en Église, ou on devrait dire pratiquions. Le tout petit morceau de pain que nous prenons à l'Église est évidemment symbolique. Il ne rassasie pas, en tout cas pas physiquement. La preuve, c'est que beaucoup mangent encore après le culte. Par contre, dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas du tout le cas. La foule a véritablement mangé. Ils ne se sont pas contentés d'une petite bouchée et encore moins de miettes, comme certains le pensent en disant « ils se sont partagés, chacun a pris des miettes ». Non. Le texte nous dit « ils ont été rassasiés ». Et insister sur cet aspect-là est important. Parce que cela revient à dire que chacun qui était présent a reçu une part conséquente, et en tout cas suffisante pour ses besoins personnels. Et bien sûr, j'espère que vous l'aurez compris, cela ne se limite pas uniquement ou spécifiquement à la nourriture. Chacun a reçu une part suffisante pour ses besoins personnels. Je vous disais que vous pouviez regarder la définition de rassasier au dictionnaire. Si vous le faites, vous verrez qu'il y a aussi un second sens, un sens plus figuré. Et rassasier, celui ou celle qui a ses passions, ses désirs pleinement comblés. Et je veux croire que ce second sens s'applique aussi à notre passage. Tous mangèrent et ils furent rassasiés. Ils ont été pleinement comblés dans tout leur être, comme nous pouvons être pleinement comblés en Jésus-Christ. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'importance de ce récit, du fait qu'il se trouvait dans les quatre évangiles, qu'il y avait un parallèle avec la scène. Mais la meilleure preuve de son importance, c'est Jésus lui-même qui nous la donne. Un petit peu plus loin dans le texte, chapitre 16, verset 9, dans une discussion avec les disciples, Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les cinq pains des 5 000 et le nombre de paniers que vous avez emportés ?» Voyez-vous, je ne suis pas un grand adepte de ce qu'on peut appeler la numérologie biblique, et par le fait d'essayer de trouver des symboles, des allégories à tout bout de champ dans le texte, à chaque virgule, chaque mot presque. Mais quand c'est mis particulièrement en évidence, et que Jésus lui-même le signale, je pense qu'on peut quand même s'y arrêter un petit instant. Très simplement, 5 pains, 2 poissons, 7 aliments au total. Le 7 dans la Bible, chiffre de perfection, plus exactement de plénitude. Et combien de corbeilles pleines a-t-on à la fin, demande Jésus ? 12. Le nombre de tribus d'Israël, le nombre de disciples, 12, c'est la symbolique du nombre du peuple de Dieu. C'est-à-dire, en résumé, que chaque ration, chaque part, était une partie de cette plénitude de Dieu. Que tout le monde qui était présent a pu être nourri, et qu'il reste largement assez pour nourrir tout le peuple. Ah, frères et sœurs, vous avez parfaitement le droit de ne pas forcément adhérer à cette petite interprétation, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir au minimum un joli clin d'œil. Frères et sœurs, ce passage célèbre de l'Écriture vient aujourd'hui encore nous rappeler à notre condition de croyant, à notre condition de serviteur, de témoin du Christ. Même au travers d'éléments ordinaires, même si nous ne disposons que de quelques pains, le Seigneur peut agir à travers nous. Il peut agir malgré nous et procurer la surabondance. C'est moi qui suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Et on pourrait ajouter, il sera rassasié. Amen. Je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre foi dans le Seigneur ressuscité. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. C'est ce que nous pouvons chanter, cantique 566 de recueil Arc-en-Ciel. Quelques activités ou nouvelles de la communauté qui fait évidemment partie du culte. Lisez les épîtres de Paul, vous verrez qu'il y a plusieurs nouvelles personnelles. Alors tout d'abord, il faut pouvoir remercier les gens de la technique, ceux qui nous permettent, ce qui vous permettent de suivre ce culte via les écrans. Aujourd'hui, pas toujours la même chaque dimanche, mais aujourd'hui, Jean Bertin, Olivier et Ronnie à l'accueil. Merci aux musiciens, merci à Eric, merci à Nan, Manu, qui nous ont envoyé les chants. Je m'adresse aux membres du consistoire. J'ai vu dans Echo, donc qui est sorti, donc vous avez sans doute reçu dans votre boîte mail, pour ceux qui sont ici présents, il y a des exemplaires papier désinfectés. J'ai vu qu'il y avait une réunion de prière jeudi à 19h30. Voilà. Donc je confirme, réunion de prière jeudi à 19h30. Avec le masque, bien sûr, ça ne nous empêche pas de prier. Je vois Colli. Non ? Ah, ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles. On nous a appris aujourd'hui, très bonne nouvelle, Cécile et Nathan sont devenus les... Qu'est-ce que je dis ? Cécile et Thomas. C'est ouais, j'ai écrit les noms. Cécile et Thomas sont venus les heureux parents d'un petit Nathan. Voilà, c'est ça le. Voilà, félicitations à eux. Si vous nous voyez, Nathan, bienvenue. Donc, on espère que tout se passera bien. Et voilà, nous sommes extrêmement ravis de cette bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles plus personnelles. Nous allons prier. Seigneur, donne ton pain. Donne ton pain à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain. car toi seul, Seigneur, tu peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi, Seigneur, tu peux combler notre amour. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Après quoi, nous pourrons chanter encore un cantique à la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous sommes appelés à nous confier en Dieu, car lui seul peut nous combler parfaitement, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Prenez pour vous ces paroles de bénédiction issues du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Et nous voulons terminer, en disant, en chantant et en proclamant à l'agneau de Dieu la victoire.
Avec force et louange. À
soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles.
Je souhaite un dimanche béni et je signale aux personnes qui sont présentes ici qu'il y a un panier d'offrandes disponible à la sortie du culte. Que le Seigneur vous bénisse.